le 7-9.
Bienvenue sur Inter, bonjour à tous. Nous sommes le mercredi 17 novembre. Bonjour Anaïs Feugard.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, il y a 3 ans débutait le mouvement des Gilets jaunes. Retour dans ce journal au rond-point de Commercy dans la Meuse. Alors que 8 Français sur 10 pensent qu'un mouvement comparable peut encore émerger aujourd'hui. Enquête Ipsos pour France Inter. Les détails Anaïs après les autres titres.
Éric Zemmour convoqué une nouvelle fois au tribunal ce matin à 9h30 pour ses propos sur les mineurs étrangers non accompagnés. Les consommateurs européens responsables de la destruction des forêts tropicales. La commission veut réglementer. Et puis un morceau de violon chaque jour du confinement. C'est le nouvel album de Renaud Capuçon.
Invité de France Inter ce matin. 7h50 Léa.
Dépression, troubles anxieux, addiction aux écrans. La santé mentale des jeunes s'est aggravée pendant la crise sanitaire. Il y a urgence, conclut le rapport annuel de la Défenseur des droits. Elle vient nous en parler en exclusivité. Claire Hédon est notre invitée à 7h50.
Et on se retrouvera à 8h20, Léa, pour le grand entretien de la matinale avec Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique, président du Comité consultatif national d'éthique. Il répond à vos questions au 01 45 24 7000.
France Inter. Où sont passés les gilets jaunes? En ce 17 novembre, il y a 3 ans, après un appel sur les réseaux sociaux, des dizaines de milliers de personnes se retrouvaient sans se connaître, munies du gilet jaune obligatoire dans les voitures, sur les ronds-points, pour ralentir la circulation, démonstration de mécontentement face au prix de l'essence. 3 ans plus tard, moins de monde dans la rue, mais colère toujours présente, disent-ils. France Inter retourne ce matin à Commercy, 5800 habitants dans la Meuse. C'est là qu'avait été lancée l'assemblée des assemblées des gilets jaunes de plusieurs régions cherchaient à construire un mouvement de démocratie participative. 3 ans plus tard, certains continuent à s'engager, Mathilde Himy.
Il y a 3 ans, plus une voiture ne passe au rond-point des Vaches Bleues et alentour, se souvient Jonathan.
Entre 500 et 900 personnes qui bloquaient les 9 accès de Commercy.
Le mouvement s'étiole. Certains se lancent sans succès dans la course au municipal de Commercy. Jonathan, 38 ans, fonctionnaire territorial, crée lui une branche syndicale et continue de s'engager.
On n'a plus besoin de mettre le gilet. Quand on met le gilet, ça a un côté un peu sentimental. Mais cet esprit gilet jaune-là, d'arriver à se réunir, de discuter avec des gens qui ont différentes orientations politiques, différents milieux sociaux, on fait des réunions, on discute, on essaie de faire des trucs ensemble.
Emmanuel, 49 ans, se souvient avec nostalgie des assemblées participatives.
On se croyait isolé à ce moment-là et de rencontrer les gens qui étaient là, on se rendait compte que tout le monde avait les mêmes soucis. Moins de loisirs, toujours travailler plus, toujours avoir moins d'argent. On a passé des heures à voter chaque question, chaque mot, chaque réponse. C'était énorme, on voulait vraiment avoir quelque chose avec la transparence la plus totale.
Elle a fait presque toutes les manifestations.
Oui, je continue parce que qu'est-ce qui a changé? Est-ce qu'on a des libertés? On n'en a aucune, de tous les côtés. Hein. Que ce soit avec le pass sanitaire ou sur la liberté de manifester, sur les droits de l'homme. Donc non, normalement un président, il est là pour aider son peuple, pas aider les multinationales et les lobbies.
Tous deux manifesteront aujourd'hui à Commercy. Emmanuel se rendra à Paris samedi pour le rassemblement anniversaire des Gilets jaunes.
Mathilde Dehimy à Commercy, où nous serons tout à l'heure pour un 13-14 spécial. Et à 5 mois de la présidentielle, le mouvement d'ampleur des Gilets jaunes peut-il renaître? Il conserve en tout cas une base solide. 40% des Français s'en sentent proches. Résultat d'une enquête de l'Institut Ipsos Soprasteria pour France Inter. Écoutez les explications de Mathieu Gaillard, directeur d'études à Ipsos.
Ce mouvement des Gilets jaunes, 3 ans après, il a encore une forte résonance auprès des Français, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, la principale préoccupation des Français, c'est le pouvoir d'achat. Donc fondamentalement, non, les choses n'ont pas beaucoup changé et ça explique pourquoi plus de 8 Français sur 10 nous disent d'ailleurs qu'un mouvement similaire à celui des Gilets jaunes pourrait très bien ressurgir dans les mois ou dans les années à venir en France.
Ça veut dire que les Gilets jaunes, c'est une épine dans le pied d'Emmanuel Macron à 5 mois de la présidentielle?
Même si effectivement les chiffres macroéconomiques au niveau du pays disent que le pouvoir d'achat des Français n'a pas baissé durant la pandémie et même s'est un petit peu amélioré, c'est pas du tout le ressenti des Français et évidemment c'est problématique pour le président.
Mathieu Gaillard avec Anne Souhaitement. Tous les chiffres de cette étude Ipsos sont à retrouver sur franceinter.fr. Sondage réalisé du 8 au 10 novembre auprès de 1063 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus.
Il est 7h05. L'épidémie de Covid, Anaïs, fait un bond en France.
20 000 nouvelles contaminations en 24 heures, jamais vues depuis fin août. C'est le double des nouveaux cas quotidiens de ces derniers jours. Mais pas encore de vague dans les hôpitaux, malgré plus de 600 nouveaux malades admis depuis lundi. Hier, le porte-parole du gouvernement a assuré ici même qu'un nouveau confinement n'était pas à l'ordre du jour. Quoi qu'il en soit, les mœurs dans le monde de l'entreprise ont tellement évolué que le recours au télétravail ne serait plus vécu de la même manière. Selon un baromètre Ubique publié aujourd'hui, le nombre d'espaces de coworking a augmenté de 60% depuis 2019. Mais le changement se constate aussi dans les bureaux. Les tendances naissantes avant la pandémie deviennent la norme. Le reportage de Delphine Evenou.
Avec 1, 2 ou 3 jours de télétravail par semaine, aujourd'hui, il faut savoir convaincre son salarié de venir au bureau, offrir des services, miser sur la convivialité, bannir les rangées d'espaces cloisonnés. Le quartier de la Défense, 500 entreprises, 180 000 salariés n'y coupent pas. Qualité plutôt que quantité. Pierre-Yves Guisse, le directeur général de l'établissement public Paris La Défense.
Quand on discute avec les entreprises extérieures d'une possible implantation à La Défense. Auparavant, on parlait avec un directeur immobilier, un directeur financier qui voyait l'immobilier comme un poste de coût. Aujourd'hui, c'est avec la direction des ressources humaines qu'on discute. Les entreprises doivent intégrer dans leur stratégie le fait d'offrir des conditions de vie au travail qui soient conformes à ce qu'attendent notamment les plus jeunes générations.
Flexibilité, adaptabilité, modularité, le triptyque désormais sacré de l'aménagement des espaces de travail, très demandé à Julie Vinet, architecte au cabinet ARP.
L'espace doit pouvoir bouger très vite. Donc effectivement, ce qui va être cloisonnement, ce qui va être mobilier, ce qui va être éléments de séparation qui peuvent être autres que des cloisons, nous on est là pour mettre en musique des espaces qui peuvent évoluer avec le temps et qui vont permettre de s'adapter aux changements et aux nouvelles organisations qui va pouvoir y avoir effectivement.
Avec la possibilité aussi d'optimiser pour gagner des mètres carrés.
En Guadeloupe, la grève générale illimitée contre l'obligation vaccinale des soignants et contre le pass sanitaire se poursuit. Les accès au CHU bloqués hier pour les voitures, on y est dans le journal. De 8 heures. C'est en habitué des prétoires que comparait aujourd'hui Éric Zemmour. Le polémiste poursuivi ce matin pour complicité de provocation à la haine raciale et injure raciale. Il ne devrait pas être présent à l'audience, mais des jeunes soutiens de Génération Z ont prévu d'être devant le tribunal de Paris. Bonjour Mathilde Vinceneux.
Bonjour.
Ce que la justice lui reproche, ce sont des propos tenus sur CNews le 29 septembre 2020 sur les mineurs isolés, ces étrangers mineurs arrivés sans parents.
Oui, sur le plateau, Éric Zemmour déclare au sujet des mineurs isolés, je cite, « Ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs, c'est tout ce qu'ils sont ». Depuis, le CSA a sanctionné la chaîne, 200 000 euros d'amende. Le directeur de publication de CNews sera d'ailleurs lui aussi jugé aujourd'hui. Dans la salle d'audience, il y aura beaucoup de parties civiles, des associations, mais aussi des représentants des conseils départementaux. Ils sont responsables des mineurs isolés et au cœur des débats, une question, lorsqu'Éric Zemmour parle des mineurs isolés, fait-il référence à une ethnie, à une nation, à une religion déterminée? C'est comme ça que la loi définit une provocation ou une injure raciale. Il risque 1 an de prison et 45 000 euros d'amende.
Et ce n'est ni la première ni la dernière fois qu'Éric Zemmour est rattrapé par la justice.
Oui, en 10 ans, il y a eu une quinzaine de procédures. Éric Zemmour a souvent été relaxé et 2 fois condamné pour provocation à la haine après des déclarations à la télé. Là encore, 2 000 euros d'amende avec sursis en 2011, 3 000 euros d'amende en appel en 2018 et d'autres procès vont suivre. Après une relaxe, Éric Zemmour sera jugé en appel en janvier prochain pour contestation de crimes contre l'humanité. Il avait déclaré que Pétain avait sauvé les Juifs français. Il y aura aussi un procès l'automne prochain pour ses propos sur le prénom de la chroniqueuse Absa Toussi. Une insulte à la France avait lancé le polémiste.
Mathilde Vinceneux, audience tout à l'heure à 9h30. Un vote unanime des 123 députés présents hier dans l'hémicycle, assez rare pour être souligné. La loi sur la sécurité civile définitivement adoptée. Coup de pouce financier pour fidéliser les pompiers volontaires. En France, 80% des 250 000 pompiers sont des non-professionnels. Un modèle unique en Europe. Et puis ce sont les élus de terrain, par définition les 34 000 maires de France, choisissent aujourd'hui leurs représentants. Vote jusqu'à 15h avant une réception demain à l'Élysée.
France Inter, il est 7h09. Les Européens, Anaïs, responsable d'au moins 10% de la déforestation mondiale.
Selon un rapport du Parlement européen, responsable à travers notre consommation quotidienne de certains produits. Alors, de même que l'Union veut éradiquer le plastique à usage unique, la Commission dévoile son projet de réglementation pour lutter contre la déforestation. À Bruxelles, Angélique Boin.
Le café, le chocolat, le bœuf, l'huile de palme, le soja ou le bois, voilà les 6 produits de consommation courante que la Commission estime être les principaux responsables de la déforestation. Pour pouvoir en importer dans le marché unique européen, les industriels devront fournir la preuve qu'ils ne se sont pas approvisionnés chez des producteurs qui ont récemment transformé des forêts en terres agricoles. Pour le vérifier, on utilisera les satellites avec des images d'archives. Le producteur devra prouver, photo à l'appui, qu'il n'y avait pas d'arbres à la place de son champ. Avec quelle rétroactivité? C'est un point qui fera l'objet d'âpres négociations avec le Parlement qui plaide pour 2015, là où la Commission envisage, selon son pré-projet 2021. Un texte qui ne concernera que les forêts, pas les autres écosystèmes comme les zones humides, s'inquiètent également les écologistes de Greenpeace. Mais nous serons tout de même les premiers au monde à mettre en place une telle réglementation, salue l'ONG. Comme avec le plastique ou le règlement sur les données personnelles, l'Union espère donner l'exemple. Nous sommes en train de changer le logiciel commercial européen, se félicite l'eurodéputé Pascal Canfin. Bruxelles, Angélique Boin, France Inter.
Au Canada, déchaînement de pluie jamais vu à l'est de Vancouver, glissement de terrain, inondation, un mort, des milliers d'évacués, changement climatique, disent les autorités canadiennes. Autre continent, même cause, l'Égypte. Là, les pluies diluviennes inédites depuis 11 ans dans le sud ont fait sortir de leurs abris des centaines de scorpions et de serpents. Une centaine de maisons emportées sous la pluie et les grêlons, 4 morts. L'Égypte accueillera la COP27 l'année prochaine. Benzema, Mbappé, buteur pour la France hier 2-0 en Finlande. Les Bleus déjà assurés d'aller à la Coupe du Monde de football. Ticket validé aussi pour les Pays-Bas et l'Argentine. Allez, on termine avec ce que le confinement nous a laissé de plus beau, le partage et le temps tous les jours. Renaud Capuçon a pris son violon pour jouer un morceau différent sur les réseaux sociaux pendant le confinement. Ça donne un violon à Paris, un album pour se souvenir. Stéphane Capron.
En mars 2020, Renaud Capuçon est l'un des premiers musiciens à utiliser les réseaux sociaux pour continuer à jouer.
Mon premier réflexe, c'est de prendre mon violon et de faire filmer par mon fils une pièce de Dvorak et de la poster. Instantanément, je me dis, ok, je vais faire ça tous les jours. Mais je pensais que ça durerait 15 jours, maximum, peut-être 3 semaines. Et à chaque fois que le président annonçait 3 semaines de plus, moi je comptais les pièces qu'il fallait que je joue et ça a duré 56 jours. Donc ça m'a permis de m'accrocher à ça égoïstement et surtout, ça a permis de partager des petite bulle de bonheur.
Sur les 56 pièces, le violoniste en a choisi 22 pour cet album, accompagné par le pianiste Guillaume Bellhomme. Un an et demi après, le public continue de lui parler de cette période.
Moi, je voyais les messages que je recevais de personnel soignant, de malades, de gens, de jeunes, de parents d'enfants. Et je le vois dans les gens que je rencontre dans la rue ou que je croise. Ce sont des gens de toutes origines sociales, de tout âge. Le merci, il est tellement plus fort que le bravo. Ça confirme que cette vie de musicien est une vie qui a un vrai sens aussi thérapeutique.
Cet album permet au violoniste d'aller au-delà du répertoire classique, de jouer Chaplin, Ennio Morricone, Stéphane Grappelli, mais aussi une pièce de l'immense Fritz Kreisler.
Voilà, un violon à Paris, c'est tellement beau, hein, le beau petit matin. Renaud Capuçon, c'est sur le label Erato.
Merci Anaïs Feugat. Le Zoom dans 3 minutes. Comment accompagner la fin de vie à domicile?